7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. La parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain aujourd'hui. Vous êtes jeune diplômé ou peut-être déjà plus expérimenté. Vous avez un projet dans le domaine des services, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la culture, du social. Bref, vous butez sur certaines difficultés. Eh bien, vous pouvez dialoguer chaque mois avec le coach Didier Akwété qui vient chez 7 milliards de voisins en personne pour vous écouter et vous conseiller. 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro de téléphone qu'il faut toujours garder en mémoire dans votre téléphone mobile pour nous appeler. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le directeur général d'Afrique Search, une société de conseil en ressources humaines. Et d'ailleurs, vous préparez un forum des PME africaines qui se tiendra à Dakar en novembre prochain.
Oui, effectivement. 11,
ouest africaine.
Non. Forum panafricain. Vous savez que les PME sont les laissés pour compte de la croissance, qui ne profitent pas suffisamment des facilités, de crédits, de financement. Or, 90% des emplois sont créés par les PME dans le monde. Et donc, on s'est dit que ça serait bien avec Ecobank, la BAD, la BRVM, etc., de se mettre ensemble et de sélectionner 300 PME que nous réunirons à Dakar avec des banques, des fonds d'investissement, des fonds de garantie pour qu'enfin, pendant deux jours, banquiers et patrons de PME se rencontrent, discutent et sortent là en disant « tape dans la main ». J'ai eu 500 000 dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars.
Ça va être le mythique de la PME africaine.
Exactement, et très opérationnel.
Avec
des sessions thématiques sur différents thèmes qui intéressent les patrons de PME. Mmh. Bref, ça va être un rendez-vous annuel qui commence à Dakar et les PME ont besoin de cette plateforme.
Mmh. Alors, 300 PME que vous sélectionnez, ce sont des PME gagnantes, qui marchent, qui ont des projets forts. Néanmoins, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas, on les appelle, nous, les champions, qui ont un vrai potentiel de croissance, alors qui doivent réaliser au moins 1,5 million de dollars quand même, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel développement fort, et les banques et les fonds sont prêts à accompagner. Parce que le souci, en fait, de toutes ces institutions, c'est qu'elles n'arrivent pas à les identifier ou à les sélectionner. Donc, nous faisons un peu ce travail en amont.
Vous faites le travail des banques.
Exactement, et des fonds d'investissement pour faciliter l'accès aux PME, à ces organisations. Et puis surtout, quand vous êtes une PME dans un pays où il y a peut-être 5 banques, vous avez parlé aux 5 banques, il n'y en a plus d'autres. Alors que là, justement, le fait de parler à des banques du pays voisin, à une banque d'une autre région qui s'intéresse à votre secteur, à votre pays, ça vous ouvre d'autres perspectives que vous n'auriez pas eues si vous étiez resté sur le marché local.
Ouais, et puis de sentir aussi un peu, prendre la température, hein, comment réagissent des investisseurs sur tout le continent, ça vous renvoie aussi une image un peu plus, avec un peu plus de distance.
Hein. Vous avez tout compris, Emmanuel. Vous créez quand votre PME pour qu'on vous invite?
Alors, en tout cas, aujourd'hui, on accueille des porteurs de projets. C'est beaucoup plus petit, mais à l'origine de toute PME, on part tout petit.
Il y a un projet, une idée, et puis on commence petit, on devient grand.
Et c'est une longue école de la patience.
Exactement.
Peut-être le message de démarrage pour les voisins entrepreneurs. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, si vous avez un projet auquel vous croyez, auquel surtout vous avez déjà longuement réfléchi et devez être capable de nous présenter ce projet avec un bon esprit de synthèse et d'y croire. 33 1 84 22 71 71. Nous commençons avec un premier projet, Didier Akwété. On accueille Richard qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Richard.
Bonjour Emmanuel.
Richard, vous avez 36 ans, vous avez un parcours de formation en logistique en France, vous avez même un master aux arts et métiers en ressources humaines, toujours en France, et vous travaillez actuellement dans le transport maritime à Pointe-Noire. Oui. Votre projet est assez ambitieux, puisque vous voulez monter une poste privée au Congo, en commençant par les villes de Pointe-Noire et Brazzaville. De quoi s'agit-il?
Tout à fait, Emmanuel. Il s'agit d'une entreprise que je vais créer dans le domaine de la logistique concernant le fret, c'est-à-dire l'envoi et la réception des courriers, des colis et divers, mais avec une seule exception par rapport aux autres, aux entreprises qui existent déjà, une livraison à domicile. Puisque jusqu'à présent, les entreprises qui sont ici ne livrent pas à domicile. Donc voilà le gros projet que j'ai. J'ai la charge de piloter avec les trois autres associés. Mais ce projet-là, en réalité, pour ce qui est de moyens de transport, je vais utiliser le fret aérien, le fret ferroviaire, le fret routier, fluvial et maritime. pour acheminer les produits ou les colis, les courriers entre Brazzaville et Pointe-Noire, comme vous venez de dire, Emmanuel.
Donc, en fonction des provenances des courriers, s'ils viennent des pays limitrophes ou de plus loin, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est bien ça. Donc, j'envisage donc entre Brazzaville et Pointe-Noire, il y a le moyen, comme le moyen, la voie routière, la voie aérienne, la voie ferroviaire. Mais entre, par exemple, la RDC que j'envisage à moyen terme d'attaquer le marché, il y a le fleuve, le fleuve Congo, il y a un bateau qui traverse tous les jours, et bon, plusieurs bateaux qui traversent tous les jours, donc je vais utiliser également ce moyen. Bon, si j'attaque le marché international, il y a également des compagnies aériennes qui font l'Europe, l'Occident de manière générale et le Congo.
Oui, ça on est bien d'accord, Richard. Mais ensuite, comment vous acheminez? Parce que votre particularité, c'est de livrer le courrier à domicile. Alors d'abord, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'adressage? Est-ce que tout le monde a une adresse au Congo-Brazzaville? Et ensuite, comment vous faites?
Alors Emmanuel, c'est tout simple. Hein, au Congo, Brazzaville, de manière générale, hein, est bien situé au niveau de l'adresse. En tout cas, Brazzaville, il y a l'adresse. Et à Pointe-Noire, effectivement, la mairie est en train de placer des adresses déjà par-ci, par-là. Il y a déjà pas mal de quartiers qui sont déjà répertoriés et identifiés. Alors, sur le plan national, hein, si je vois le Congo, à l'Interland, dans les villages, dans des petites villes, des provinces que nous appelons, c'est plus facile parce que les parcelles sont identifiées facilement.
Donc pour Brazza et Pointe-Noire, vous allez livrer le courrier à domicile avec des motocyclettes pour la dernière partie du trajet, c'est ça?
Oui, oui, bien sûr. Pour accomplir cette dernière partie, je vais utiliser donc une espèce de brouette que les Chinois fabriquent ici. Il y a donc une motocyclette avec des brouettes en arrière. Donc, je peux charger la marchandise pour un premier temps avec une perspective de, si jamais le projet aboutit, d'avoir des véhicules qui pourraient assurer cela. Mais entre-temps, si c'est des gros, par exemple des conteneurs, si j'arrivais à faire, par exemple, un fret de conteneur, je peux également faire appel à des sociétés de transport qui l'utilisent déjà. Donc, moi, je touche la commission et le client, il paye. Et j'achemine la marchandise jusqu'à domicile, jusqu'à la livraison.
Mais alors, ceci dit, au Congo, il y a déjà des postes privés, il y a déjà plusieurs sociétés qui sont sur ce marché-là, non?
Mais bien sûr.
Comment vous allez-vous faire une place sur ce marché?
C'est simple, hein, je vais utiliser le moyen de communication tel que le média, les prospectus, les...
Passer chez 7 milliards de voisins. Didier à côté, vous voulez questionner notre ami Richard?
Bonjour Richard. Non, peut-être deux questions, mais je suppose que vous alliez y venir. Est-ce que dans un premier temps, vous commencez par le marché local ou vous faites tout de suite de l'international? Et la deuxième question, qu'est-ce que vous allez offrir de plus que vos concurrents?
Alors, premièrement, je vais seulement me limiter sur le marché local. Je vais faire entre Brazzaville et Pointe-Noire, avec une perspective de couvrir le marché local progressivement avant d'attaquer l'international. Donc le premier projet concerne Brazzaville et Pointe-Noire, ensuite les provinces du Congo. Quant à la deuxième question, ce que je veux apporter de plus, c'est que je me suis rendu compte que les colis, les courriers ne sont pas livrés à domicile. Donc il faudrait que le client vienne à l'agence de telle compagnie pour retirer son colis.
Donc ça c'est vraiment votre plus, hein, c'est ça?
Oui, c'est vraiment mon plus que je veux apporter.
Alors qu'est-ce que vous attendez de Didier à côté? Quel est votre problème là? Parce que vous avez déjà, le projet est déjà pas mal avancé, vous êtes 4 associés en tout, je sais qu'il y a un informaticien, il y a un employé de la poste, il y a un ancien acteur du fret, vous êtes en train de consolider la partie juridique du projet, vous avez encore à faire le logiciel de gestion de la logistique, parce qu'il y a beaucoup de logistique dans une poste, hein. Vous butez sur quoi?
Moi, ma question que je voulais poser à Didier Apouté, afin que j'aie des conseils, c'est que est-ce qu'un modèle, hein, parce que je me suis inspiré du modèle français, est-ce que ce modèle peut être appliqué, adapté dans un pays en voie de développement comme le Congo? Ça, c'est ma première question. La deuxième est-ce qu'il y aurait un financement international? Voilà mes deux questions.
Alors, la première question, si vous voulez, le modèle de la poste, c'est un modèle qui est en fin de vie parce que ça demande beaucoup d'infrastructures, puisque le principe de la poste, c'est qu'il y a des bureaux qui sont ouverts dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque patelin, et les gens se battent d'ailleurs pour que les bureaux restent. Donc, c'est très coûteux. Et deuxièmement, c'est qu'il y a de moins en moins de courriers physiques qui circulent avec Internet, les emails. Et donc, la poste se meurt un peu de cette activité. C'est pour ça qu'elle développe d'autres activités. Donc, aujourd'hui, dire que ce modèle peut être répliqué avec le développement des nouvelles technologies, je ne crois pas parce que c'est trop d'investissement pour ouvrir tous ces bureaux de poste. Maintenant, pour revenir à votre projet, puisque je suppose que c'est en comparaison de ce que vous voulez mettre en place, votre projet me paraît très bon, parce que justement, la livraison à domicile, c'est le marché qui se développe. Si vous avez regardé les derniers développements au Nigeria, de sociétés que je n'aimerais pas forcément, c'est des modèles à succès. Si vous regardez ce que deux grands groupes français sont en train de mettre en place en Côte d'Ivoire actuellement pour faciliter la vente en ligne et donc la livraison des produits qui sont commandés, c'est un modèle à succès. Si vous voyez une entreprise comme Top Chrono qui s'est développée beaucoup en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années, c'est un modèle qui fonctionne et donc vous avez raison de vous rapprocher du consommateur, d'autant plus que vous avez beaucoup d'activités aujourd'hui nouvelles comme la vente en ligne, la vente à distance, qui permettent aux gens de commander et d'être livrés chez eux. Donc, sur le concept, gardez ce concept et non pas celui de la poste, que vous pouvez même pas déployer parce que vous allez ouvrir tellement de bureaux. En revanche, au lieu du modèle de la poste, puisque c'était ça la question, c'est que vous, vos bureaux de poste deviennent des distributeurs. C'est-à-dire l'épicier du coin dans la ville devient le bureau de poste, la librairie devient bureau de poste, la banque devient bureau de poste.
Sur le modèle du téléphone mobile.
Exactement. Donc, en réalité, vous avez tellement de points de distribution aujourd'hui qui se substituent au modèle de la poste que vous avez même à la fin plus de bureaux de poste entre guillemets que la poste. Et ça, c'est un avantage pour vous. Maintenant, la question de l'adressage. Vous disiez que l'adressage était relativement bien fait au Congo. Alors, quand ce n'est pas fait, vous avez justement ces points de vente de proximité qui permettent au client d'aller récupérer son colis à 10 mètres de la maison ou à 5 mètres de la maison chez l'épicier, qui est votre partenaire. Donc, c'est bien comme projet. Moi, ça me plaît bien. C'est en plein développement, ce secteur.
Alors,
et vous avez raison d'y aller.
L'investissement, juste quand même pour préciser que vous avez déjà... il vous manque un investissement d'à peu près l'équivalent en euros de 7500 euros et que vous avez vous-même déjà investi à peu près 3000 euros.
Oui, à peu près 3000 euros. Oui, bien, c'est ça.
Alors, vous n'allez trouver aucune organisation internationale pour mettre les 7500 euros parce que c'est trop petit d'abord et puis c'est un peu loin. Ils n'ont pas que le business à côté. En revanche, ce qu'on appelle du friends and family, c'est-à-dire vos amis, vous faites une petite tontine, entre guillemets, et vous sollicitez des amis qui peuvent mettre chacun 300, 400, 500 euros, ou alors vous faites du crowdfunding. Non. Le montant n'est pas important, c'est pas du tout important. Donc vous pouvez mobiliser cet argent.
C'est quand même un comble. Hein. Alors quand on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, c'est compliqué. Et quand on a besoin de beaucoup, c'est compliqué
Et puis Richard, si l'entité est créée, vous avez déjà les infrastructures. N'oubliez pas le marché des entreprises. C'est-à-dire, vous êtes au Congo. Si vous pouviez signer un contrat avec quelques entreprises pour les aider à distribuer leurs colis, leurs courriers, et qu'elles sont prêtes à signer un contrat avec vous, et qu'elles vous font une petite avance parce que le montant n'est pas important, vous pouvez, sous la forme d'avance.
Vous avez sondé des entreprises déjà, Richard, là où vous êtes?
Oui, effectivement. Je n'ai pas encore ciblé totalement les entreprises, mais j'ai dit dans le projet que je vais contacter, par exemple, je vais signer des accords avec des entreprises de transit. C'est-à-dire, il y a des grosses entreprises de transit qui font de transit, qui douanent des marchandises, etc.
Donc, boîtes de transit, oui.
On peut signer des partenariats. Voilà, des boîtes de transit, je peux signer des partenariats. Dès que lui, il s'occupe de la partie dédouanement transit et moi, je m'occupe donc de l'acheminement. Et il y a tant d'autres entreprises que j'ai déjà pensé à ce sujet. Comment je vais essayer un peu de me rapprocher avec la prospection que je vais faire des entreprises pour signer des partenariats dans ce sens.
Très bien, parce que c'est une clientèle potentielle qui va vous nourrir en business sur l'année. Et si vous arrivez à en accrocher deux ou trois, que ce soit des sociétés transit ou même des sociétés qui vendent des produits à Brazza et des clients qui sont à Pointe-Noire, vous leur proposez de les leur acheminer, c'est vraiment très bien. Et puis maintenant, vous avez une compagnie nationale qui s'appelle Equerre qui fait Brazza Pointe-Noire huit fois par jour. Là, vous n'avez plus de raison de ne pas pouvoir livrer vos clients dans la même journée un produit qui est commandé le matin.
Vous y croyez à ce projet, Richard?
Moi, j'y crois. Il y a de l'avenir et c'est des plateformes qui vont se développer.
Richard, donc, vous êtes satisfait des conseils que vous a donné Didier Akwété?
Oui, je suis totalement parfaitement satisfait avec des concepts que je vais essayer un peu d'exploiter, des conseils, des orientations, ça me va droit. Hein,
alors, ce qui va prendre du temps, c'est de mettre en place ce maillage extrêmement serré petits commerçants qui vous serviront de relais, finalement.
Oui, et votre logistique.
De poste,
oui, parce que vous n'êtes pas en train de créer une compagnie de transport, mais de logistique. Et c'est vraiment la logistique qui est clé, comme vous l'aviez dit vous-même au début, dans ce business.
Ça tombe bien, vous avez une formation en logistique, plus les ressources humaines.
Bien sûr.
Bonne chance, Richard. 36 ans à Pointe-Noire et un beau projet sur une poste privée au Congo-Brazzaville. Vous nous donnerez des nouvelles dans quelques temps, bien sûr. 33 1 84 22 71 71. Vous nous appelez, vous avez un projet pour votre continent, quel que soit le secteur. Vous pouvez dialoguer avec le coach de retour dans le studio de 7 milliards de voisins.
Tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know, we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there.
Néo-zélandaise Lord qui chante Team, ça vous a plu cette voix-là, Didier Akwete?
C'était tonique comme rythme.
33 1 84 22 71 71, ça aussi c'est un rendez-vous tonique. Le coach Didier Akwete vient chaque mois chez 7 milliards de voisins pour dialoguer avec vous et surtout vous donner des ailes pour vos projets lorsque vous bloquez pour réaliser des projets, quels que soient les secteurs. On accueille après un projet ambitieux sur les postes au Congo-Brazzaville, on accueille un voisin qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Madi.
Oui, bonjour.
Madi, vous avez 26 ans, vous êtes chauffeur de bus à la RATP en région parisienne.
Oui.
Votre projet est intéressant, c'est de monter une boîte de taxis collectifs à Bamako. Moi, je pensais qu'il y avait déjà beaucoup de taxis, c'est pas tellement le cas?
Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de taxis, mais il y a beaucoup aussi les chauffeurs qui ont besoin des voitures à location.
D'accord. Alors après, il faut qu'il y ait des clients de l'autre côté, hein, bien évidemment. Mais c'est sûr que quand on a envie de travailler, qu'on est chauffeur et qu'on n'a pas de voiture, c'est un problème. Vous avez un remède à ce problème-là. On y revient dans 3 minutes, juste après le flash. Vous restez avec nous, Didier Akwete.
Je ne bouge pas du studio, Emmanuel.
Et pour les autres, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 avec des projets mûrement réfléchis et des conseils à solliciter auprès de Didier Akwete, le coach chez 7 milliards de voisins.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez chez 7 milliards de voisins sur RFI avec le coach Didier Akwété qui est toujours en train de danser sur le générique. Il vous plaît bien ce générique?
J'adore ce générique, il est rythmé, il est bien pour nous. Quoi.
C'est gentil Didier. Didier vous écoute, surtout vous les voisins, les voisines, et vous conseille pour vos projets d'entrepreneuriat. Vous avez envie de changer le continent petit à petit comme on dit, hein, avec une multitude de PME. On y arrive, même si c'est une école de patience, on le disait au début de l'émission. Ce ne sont pas vos idées qui manquent pour le continent africain. Après ce projet de poste privé au Congo-Brazzaville, vous avez dit que c'était un bon projet, hein, ça Didier Akwété.
Ah, j'aimais bien ce projet.
Ouais. On est avec Maddy, qu'on avait avant le flash, qui a 26 ans, qui est en région parisienne. Bonjour Maddy, rebonjour Maddy.
Oui, rebonjour.
Maddy, donc vous travaillez comme salarié, chauffeur de bus à la RATP, et vous avez envie d'investir dans votre communauté d'origine, c'est-à-dire au Mali. Vous voulez créer une entreprise de taxi collectif à Bamako. Expliquez-nous un peu pourquoi, comment.
Il y a 2 ans à peu près, j'ai été en voyage au Mali. J'avais ma voiture. Après, une fois qu'il est tombé en panne, j'ai eu un petit peu de difficulté au niveau des transports. Et les taxis, c'est toujours bondé. À chaque fois qu'on s'arrête à côté de la route pour appeler un taxi, on trouve que c'est chargé. Je me suis fait une idée. J'ai dit, tiens, ça, je vais pouvoir peut-être monter un jour une entreprise de transport. Comme j'ai travaillé déjà en tant que chauffeur de bus, je me suis dit, ça peut être intéressant. Du coup, j'ai rencontré quelques gens là-bas qui sont intéressés aussi, qui m'ont dit qu'une fois que j'envoie des voitures, ils vont louer aussi la journée pour pouvoir travailler avec. J'ai investi 12 000 euros, j'ai envoyé des voitures.
Quand vous dites des voitures, Maddy, de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit plutôt de minibus ou de voitures particulières?
Non, pas de minibus, c'est des voitures particulières, c'est des voitures à 5 places.
Mais pour faire du taxi collectif, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. J'ai envoyé des voitures début 2013 et ça marche super bien. En fait, je voulais grossir un petit peu, mais j'ai essayé d'emprunter au moins 12 000 euros encore pour pouvoir envoyer encore des voitures. Mais le problème, j'ai du mal à faire des crédits.
Ouais. Alors quand vous dites ça marche super bien là, ces deux voitures que vous avez envoyées, qui sont des véhicules, j'imagine que vous avez fait venir d'occasion. Hein.
Voilà, c'est des véhicules d'occasion. Hein. J'ai pas de moyens d'envoyer des voitures neuves.
Oui, non, mais.
C'est des voitures à 3 000, 4 000 euros à peu près. Et je l'envoie, j'ai fait des frais de douane et tout. Après, j'ai pris une licence de taxi aussi.
Ça tourne comment? Vous arrivez à les remplir toute la journée avec des chauffeurs?
Moi, j'ai un accord avec le chauffeur tous les jours. Il faut qu'il m'envoie, il m'en ramène 25 euros. Après, tout ce qu'il trouve après, c'est pour eux.
Ah oui, d'accord.
Voilà, tous les jours, ils prennent les voitures le matin, ils ramènent à partir de 22 heures et ils me ramènent 25 euros tous les jours par voiture. Ça me fait 50 euros pour les deux voitures par jour. Bon, du coup, j'ai 600 euros par mois quoi, pour les deux voitures.
Alors, pour l'instant, vous n'avez pas encore remboursé les investissements pour les deux voitures?
Non. Non, pas encore, mais c'est des ans, j'espère que ça va mieux. Surtout quand j'ai réussi à envoyer encore des voitures de plus. Ça va être encore plus intéressant.
Le plus gros coup là dans cette histoire, une petite PME qui a l'air effectivement, hein, ça a l'air de tourner. Le plus gros coup, c'est l'entretien, les réparations, ce sont des choses comme ça.
Voilà, c'est des choses comme ça. Les payer les chauffeurs aussi, parce que les chauffeurs, je le paye 60 euros par mois aussi. Le fait qu'il lui met une voiture à moi, je le paye aussi 60 euros par mois, parce que c'est pas tous les jours qu'il gagne l'argent des pères.
Didier Akwété est à côté de moi et vous écoute attentivement. Qu'est-ce que vous voulez solliciter comme conseil, Maddy?
En fait, moi, je voulais savoir parce que j'ai essayé de mon côté en France pour pouvoir trouver des financements. Mais c'est pas aussi facile que ça. De ma banque jusqu'à les crédits particuliers, je trouve pas les crédits vraiment pour pouvoir m'avancer, quoi.
Alors, vous avez contacté une grande banque et puis vous avez contacté aussi une banque qui fait du crédit à la consommation en France. Mais c'est pas tellement ce genre de banque qui va financer un investissement à l'étranger. Et pour l'instant, vous savez pas comment racheter des voitures pour devenir enfin bénéficiaire d'une affaire assez prometteuse.
C'est ça.
Didier Akwété.
Bonjour, Maddy. J'ai 2 questions. La première, les taxis à Bamako, ce sont les taxis jaunes de Bamako ou pas du tout?
C'est les taxis jaunes de Bamako.
C'est les taxis jaunes, très bien. Oui. Est-ce que vous avez une société au Mali pour faire cette activité?
Oui, c'est comme une société, hein. J'ai une licence que je paye presque tous les mois.
En France, je ne pense pas que vous allez trouver un crédit pour financer cette activité, parce que l'activité est trop loin et la société n'est pas enregistrée, j'imagine, en France, et l'activité n'est pas ici. Donc, vous aurez du mal. En revanche, au Mali, c'est tout à fait possible. Plus je vous entends, ça m'amène à penser à 2 choses. La première, si vous avez une entité légalement constituée au Mali qui achète les taxis, en fait, ça vous donne un actif. Si c'est une SARL ou une ERL, ça veut dire que la société a des actifs qui sont déjà les deux voitures. Fort des deux voitures, vous pouvez aller voir une banque à Bamako qui peut vous prêter de l'argent pour acquérir de nouveaux véhicules, puisque le business tourne, parce qu'une banque, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment vous allez rembourser le prêt qu'elle va vous faire. Donc, si l'entité est légalement enregistrée au Mali et que les deux voitures actuellement appartiennent à cette société, vous pouvez aller voir une banque à Bamako pour qu'elle vous prête de l'argent. Et soit les voitures que vous allez acheter, elles valent en tir si elles ont une valeur intéressante, en disant, voilà, je vous prête 5 millions de CFA ou 10 millions de CFA, mais je garde la voiture au nom de la banque jusqu'à ce que vous ayez fini de rembourser le crédit. Ou alors, je vous prête cette voiture, mais je nantis les deux voitures que vous avez pour l'instant, si elles ont une valeur, pour que je puisse me couvrir si vous n'arrivez pas à rembourser. Donc ça, c'est le modèle classique que vous pouvez utiliser, a priori, si le business tourne et que ce que vous récupérez chaque jour est déposé auprès de la banque. La banque est relativement sereine parce qu'elle se dit que l'activité tourne et que elle peut se rembourser sur la base des revenus que vous générez. Maintenant, j'ai une deuxième idée. Si vous n'avez pas de banque qui est prête à vous suivre et que vous n'avez pas vous-même des ressources, la deuxième idée, c'est qu'en Afrique, je constate que beaucoup de particuliers ont 2, 3, 4 voitures garées chez eux, dont une, généralement, n'est pas utilisée. Et le deal, c'est de leur dire, écoutez, vous faites une annonce ou vous utilisez un peu votre réseau, si vous avez une voiture que vous n'utilisez pas, moi, je vous la loue, entre guillemets, tous les mois, donc vous reversez quelque chose à celui qui vous loue la voiture, et au lieu qu'elle dorme au garage, eh ben, vous lui reversez sur les 305 € de bénéfices que vous générez chaque mois, eh ben, vous lui reversez 100, enfin, vous faites votre calcul économique, vous lui reversez peut-être 100 € ou 50 ou 80
Avec une garantie, quand même, hein.
Exactement.
Taxi collectif, ça amortit bien les voitures.
Exactement. Avec la contrepartie que le programme de maintenance, de réparation est bien fait. Tous les soirs, la voiture est revenue garée chez lui pour qu'il soit sûr. Le week-end, la voiture vient chez lui. Bref, vous le rassurez pour qu'il s'assure que les chauffeurs d'abord sont sérieux, que la voiture ne revient pas en lambeau au bout d'un mois ou de 2 mois. Et je suis sûr que c'est un modèle que vous pouvez développer, qui peut être exportable après dans d'autres pays, parce que je vois souvent dans beaucoup de familles africaines, enfin un peu aisées, il y a toujours une vieille voiture qui dort dans un garage.
Et on aimerait bien que ça rapporte un petit peu, effectivement.
Et ça peut rapporter. Et du coup, vous allez voir que peut-être rapidement, si le modèle fonctionne, vous allez avoir 10, 20, 30, 40, 50 véhicules, avec en plus une autre idée, c'est que ces voitures-là, si vous les mettez à votre marque, si vous appelez ça Madi Taxi, admettons, vous pouvez tout à fait, vous savez, sur le toit des voitures actuellement, et j'ai vu d'amis qui faisaient ça d'ailleurs dans un pays en Afrique de l'Ouest il n'y a pas longtemps, vous allez peut-être demander à un opérateur télécom ou à une banque de lui faire de la pub sur le toit des taxis.
C'est la publicité.
Exactement. Donc ça vous génère en plus quelques revenus complémentaires, en plus de ce que les taximans font. Et
bon,
je peux vous dire
j'espère que vous avez pris des notes.
Je peux vous dire que les grandes sociétés sont prêtes à faire de la pub sur les taxis Madi Taxi à Bamako.
Madi, je sais que vous êtes arrêté quelque part dans votre voiture sur un parking en région parisienne. J'espère que vous avez pu prendre des notes. Mais sinon, vous pouvez évidemment réécouter l'émission sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Vous êtes satisfait des riches conseils de Didier à côté?
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai l'intention de repartir au Mali d'ici un an et demi. Entre l'État, je vais essayer de trouver quelque chose pour envoyer des voitures.
À mon avis, il faudrait y aller plus tôt parce qu'il y a quelques concurrents qui vont se positionner sur ces deux idées.
Surtout
donc, essayez d'y aller
écouté,
dans les 3-4 mois. Là.
Ouais, il faut se dépêcher. À mon avis, il y a eu un petit cours de business pour les taxis là, à Bamako qui va profiter à pas mal de monde. Merci Madi et bonne chance pour ce projet. 26 ans en région parisienne, Harris Orangis qui veut investir dans la région de Bamako pour cette entreprise de taxi collectif. 33 1 84 22 71 71. Vous savez qu'on aime bien avoir de vos nouvelles. D'ailleurs, vous devriez être plus nombreux à nous dire où vous en êtes dans vos projets, même si c'est long, même si c'est difficile. On aime faire le point 6 mois, 1 an après que vous soyez passé dans l'émission.
Hard time forgiving, even hard forgiving. Before you do, son, you might regret, friend.
Hard time forgetting.
Hard Time chez 7 milliards de voisins, Senna Bosei. Elle est suédoise. Que sont-ils devenus? On aime avoir de vos nouvelles. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes passé dans l'émission il y a quelques mois, il y a un an, pour solliciter des conseils de Didier Akwété. On aime savoir où vous en êtes aujourd'hui. On est en ligne avec Marcelin, qui a 33 ans, qui est à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Marcelin.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
Didier Akwété est à mes côtés. Vous vous souvenez, Didier, de ce projet de Marcelin, qui est informaticien, qui avait en fait un projet de mise en service et de vente de logiciels, mais l'originalité, c'était de vendre en même temps des contrats de maintenance informatique. Marcelin, apparemment, vous arrivez à vendre vos logiciels, vous avez toujours d'énormes problèmes pour vendre vos contrats de maintenance. Or, on sait que la maintenance informatique, c'est essentiel. Il semblerait qu'il y ait à la fois un frein culturel. Les gens voient pas tellement l'idée d'investir dans un contrat de maintenance. Alors, dites-nous où vous en êtes exactement.
Depuis un an, notre dernier entretien avec Didier Akwété, les choses ne sont pas allées vraiment très bien, du moins...
Alors Didier, qu'est-ce que vous avez fait, Didier?
Au moins, ils vendent ses logiciels.
La bonne nouvelle, c'est que au moins, quand même, on a pu avoir un ou deux clients seulement. Mm. Oui, mais en fait, on a constaté que les gens vraiment ne sont pas vraiment habitués à ce contrat-là de maintenance, et puis ça a vraiment mis un frein à notre projet. Alors on a plutôt préféré élargir le projet et faire la fourniture aussi de matériel informatique. Là, au moins, ça marche du moins bien. Nous avons eu à créer maintenant une maison pour la fourniture de matériel informatique. Mm. Donc là, on a élargi le projet dans ce cadre-là. Et vu que à l'école secondaire, on a des notions d'électricité industrielle et d'électronique.
Donc du coup, vous vous orientez un peu vers la formation informatique, hein, ce qui est toujours extrêmement utile. Et puis vous poursuivez la vente de logiciels. Mais sur la maintenance informatique, pour le moment, vous avez quasiment failli baisser les bras avec cette petite PME, Marcelin.
Non, en tout cas, ça n'a pas bien marché, pour dire vrai, mais je n'ai pas baissé les bras, en tout cas. Donc, je continue toujours à concevoir des logiciels et je continue toujours à fournir des logiciels. Bon. Je m'accroche au peu de clients que j'ai. Et là, j'ai maintenant étendu le projet à la création aussi de convertisseurs, vu que nous sommes dans un milieu où il y a pénurie d'électricité. Nous fabriquons des convertisseurs ici localement et nous les vendons. Et nous fournissons du matériel informatique en même temps.
Merci voilà, Marcelin, on a vu à peu près où vous en étiez. Bah, c'est pas mal, hein, ceci dit, il s'adapte un peu aux besoins du marché, Marcelin, mais il est quand même déçu. Hein.
Bah, c'est ça l'entrepreneur, c'est s'adapter au marché. De mémoire, c'est vrai qu'à Goma, on avait dit qu'effectivement, il pouvait peut-être se rapprocher des bases des Nations Unies, par exemple, pour leur proposer ses services. Alors Marcelin, est-ce que vous avez... pu avoir ses clients potentiels ou pas du tout?
Marcelin, vous êtes rapproché des fonctionnaires internationaux?
Nous nous sommes rapprochés des entreprises internationales, mais eux, ils ont pour la plupart des fois des services, des départements à l'interne qui se chargent de ça. Et donc,
ils ont leur propre service. Informatique. Bon, oui, écoutez, non. Marcelin, vous lâchez pas l'affaire, vous continuez. L'essentiel, c'est que le business roule néanmoins, hein, même si vous ne parvenez pas à vous étendre comme vous le rêviez.
Mais je reste vraiment accroché à ce projet et je suis sûr qu'un jour, je vais pouvoir trouver des voies pour évoluer quoi dans ce projet-là.
Bravo, Marcelin. Didier Akwété.
Non, mais c'est bien. Vous savez, un projet, c'est pas en un an qu'on le réussit forcément. Parfois, on a de la chance qu'au bout de 6 mois, ça marche. Mais c'est 3, 4, 5, 10 ans. Et Marcelin, faut qu'il continue. S'il croit dans son projet, faut qu'il continue. Mais aussi réaliste. S'il pense qu'il n'y a pas de marché, à un moment donné, faut qu'il arrête.
Didier Akwété, on arrive bientôt au terme de cette émission.
Déjà?
Ouais, ça passe vite. Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une très, très jeune fille qui peut-être bientôt présentera un projet d'entrepreneur pour l'Afrique. Chez 7 milliards de voisins, vous allez voir si vous reconnaissez cette petite voix-là.
Je suis Edwige Molou, étudiante en deuxième année de management à ISM Dakar. J'ai 19 ans et je suis ivoirienne. Lors de nos remises de prix des meilleurs élèves au niveau du lycée, j'étais récompensée pour le prix en anglais. Et il y avait un représentant du programme Réseau pour l'excellence, une association créée par des chefs d'entreprise qui offre des bourses pour des jeunes qui ont le bac. Je me suis inscrite. Ensuite, on m'a rappelé après le bac, on me dit que je devais passer un entretien. Et ce jour même, les amis de classe, ils fêtaient le bac et moi, je devais aller en entretien déjà. C'était pas vraiment trop sympa pour moi. Et là-bas, je vois d'autres étudiants de scientifiques, des lycées d'excellence et tout. Je me dis, ah, qu'est-ce que moi, je vais chercher là? Et je me disais que, bon, sûrement qu'ils m'ont pas prise parce que vraiment avec tous ces crânes qui étaient là et tout.
Ces crânes, sous-entendu, ces excellents élèves.
Excellent, oui. J'étais là et je vois mon téléphone sonner. Je décroche, on me dit que non, je suis retenue pour le programme Excellence Jeune et que je devais participer au séminaire d'intégration. Je me dis, ce qui les a motivés à me prendre dans cette bourse, c'est plus mes activités extrascolaires. Je suis quelqu'un d'assez active à 13 ans. Depuis la classe de 4e, j'étais déjà dans les associations de défense et de promotion des droits de l'enfant. J'ai eu à participer à des conférences, comme en 2010 à Accra, sur les violences à l'encontre des enfants. Nous sommes la relève, nous sommes le présent de l'Afrique et nous devons travailler pour relever les défis. C'est ce qui, moi, me motive. L'Afrique contribue, elle aussi, à résoudre des problèmes de ce monde. Qu'on ne soit pas tout le temps là à attendre que les autres viennent nous aider, que ces jeunes aient de l'éthique, et qu'ils apprennent le sens réel des responsabilités. Quand on a des responsabilités, on ne peut pas se permettre certaines choses et on travaille à atteindre nos objectifs fixés. Il faut savoir choisir ses compagnies. Si tu te promènes avec des personnes qui ne veulent pas faire de moins d'efforts, c'est sûr qu'elles vont finir par t'influencer et tu vas devenir comme elles. Et quand je suis venue ici, j'ai vraiment été agréablement surprise de voir qu'il y a beaucoup d'autres jeunes de différentes nationalités qui partagent à peu près ces mêmes visions-là. Ils sont tous acharnés à vouloir que ce continent se relève, pas par les autres, mais par nous-mêmes. Nous sommes tout le temps connectés, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Et quand on voit d'autres jeunes ailleurs se battre parce que ils veulent qu'on respecte tel ou tel droit, mais ça fait tic dans notre esprit, on se dit, mais tiens, c'est vraiment à nous de réellement travailler pour que cela soit possible. Et aujourd'hui, on est plus motivés, oui. Nous sommes des jeunes, on en veut. Et moi, je dirais que les vrais entrepreneurs, ce sont là dans les marchés, hein, les femmes qui sont là, elles n'ont pas cette peur-là de se lancer. Et nous qui avons les diplômes, c'est un peu cela qui nous manque. On calcule les risques, nous avons peur de nous lancer. Alors que ces dames, ces mamans et autres-là, elles se lancent. Souvent pas avec de grandes sommes, avec des petites sommes, mais au fur et à mesure, elles essaient d'étendre leur activité. Je n'ai pas le droit de laisser tomber l'Afrique, je n'ai pas le droit de laisser tomber mon pays. Tout ce que je fais doit contribuer à cela. Chacun à son niveau peut changer les choses.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Alors, vous la reconnaissez, Didier Edwige Moulou, étudiante à l'ISM, Institut supérieur de management.
Absolument, que nous avons déniché à Abidjan lorsqu'elle était jeune diplômée, qui nous a fait très bonne impression. Et c'est l'occasion de saluer tous les amis qui soutiennent le programme PEJ et qui financent ces bourses.
Programme Excellence Jeune, dont vous êtes l'initiateur de ce programme. C'est un programme de bourse. Hein.
Tout à fait, de bourse d'excellence pour des jeunes Africains. On a commencé au Togo, ensuite en Côte d'Ivoire. Et c'est un réseau de jeunes chefs d'entreprise et de sponsors qui soutiennent les bourses pour que ces jeunes brillants puissent continuer leurs études supérieures. En Afrique d'abord, parce qu'on veut qu'ils restent en Afrique et participent au développement de l'Afrique. Et nous sommes très fiers parce que beaucoup sont majors de leur promotion, qui sont en Afrique du Sud, au Sénégal.
Elle
au
en
Burkina.
Veut, hein, Edwige Moulou. Hein.
Elle est excellente et je pense qu'on entendra
alors,
parler d'elle.
Il y a l'ISM qui accueille, il y a aussi des universités en Afrique du Sud.
Il y a l'Université du Cap, il y a le 2IE de Ouaga, l'UFR de médecine de Thiès, le CESAC de Dakar. Donc on a une sélection de centres d'excellence comme ça en Afrique qui accueillent ces jeunes. Et donc l'association prend tout en charge et ils sont extrêmement motivés.
C'est-à-dire la scolarité, le logement et une dotation
les repas, bref, tout est payé par l'association.
Alors pour ça, vous dénichez les meilleurs dans les lycées, pas forcément d'ailleurs dans les lycées privés les plus huppés, hein, pas
ah,
du
non,
tout.
Non, bah vous savez, la
elle,
première
elle a fait
année
sa
par
scolarité
exemple,
au lycée moderne d'Abobo. Hein,
bah, la première année par exemple au Togo, celui qui est arrivé premier, il était dans les 3 premiers bacheliers du Togo, venait d'un village perdu. où il n'avait jamais étudié à la lumière électrique, enfin à l'électricité, à la lumière électrique, n'avait jamais eu de livre pour étudier. Donc, vraiment de zones rurales presque délaissées. Et pourtant, il était brillant. Aujourd'hui, il est numéro 1 à l'Université du Cap dans sa promotion. Il parlait à peine anglais. Et les 10 qui sont à l'Université du Cap, qui parlent à peine anglais, ils tombent tous dans les 10 premiers. Donc, ça veut dire que simplement avec un peu d'accompagnement, on réussit vraiment à révéler les talents que beaucoup de jeunes Africains ont, mais que malheureusement le système éducatif localement ne permet pas de révéler.
C'est difficile de mobiliser les entreprises autour d'un projet de ce type sur le continent africain, des entreprises africaines.
Oui, c'est difficile, c'est difficile. Les entreprises ne sont pas encore très sensibles à ce genre d'initiative, mais heureusement quelques-unes y croient, avec celles qui nous soutiennent, mais il en faudrait beaucoup plus. C'est comme ça que l'Afrique va s'en sortir, elle fait bien de le dire. En fait, nous étions contre le modèle de dire on lance une initiative et puis on va chercher l'argent chez les bailleurs de fonds, en Europe. Non, non, non. L'Afrique doit financer d'abord ses initiatives et après on va chercher les autres pour accompagner. Mais nous sommes en tout cas extrêmement heureux de ces gosses qui font des merveilles, quel que soit l'endroit où on les envoie. Parce que c'est ça l'avenir du continent africain.
Des petits crânes, hein, donc. Et alors, mélanger, évidemment, des campus multiculturels, c'est ça aussi la recette, hein, pour prendre de la hauteur par rapport aux problèmes de son propre pays. Par exemple, ne pas rester toujours centré sur les problèmes de la Côte d'Ivoire en étudiant à Dakar. Ça donne une autre vision.
Exactement. Il leur faut l'ouverture. C'est ça le challenge de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est régler les challenges de l'Afrique en ayant une vision internationale, une vue globale du monde. L'Afrique n'est pas une île isolée quelque part dont on ne sort pas, personne ne rentre. Non.
Bon,
ces
quand on écoute les projets.
Partie de la globalisation.
Quand on écoute les projets qui viennent dans l'émission avec vous pour dialoguer, Didier Akouété, effectivement, on se dit que non, l'Afrique n'est plus une île, ça fait un bon moment.
Et les gens ont
beaucoup d'idées.
Donc c'est ça qui est bien.
Un ou deux petits conseils là pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ont envie eux aussi de présenter leur projet auprès du coach.
Alors, commencer petit mais voir grand, voilà c'est ça, il faut avoir de l'ambition. Un projet ça met du temps, ça aussi on s'en rend compte avec celui de notre ami qu'on a pris à Goma. Un projet ça prend du temps, mais il faut avoir de l'ambition et accepter de commencer petit et de ramer, de se casser la gueule, de recommencer. C'est comme ça que ça fonctionne.
Didier Akouété, le forum des PME à Dakar, des PME africaines, c'est 11 et 12 novembre.
Et c'est le rendez-vous de financement des PME à ne pas rater.
Voilà. Et super mariage en vue, mais avec de l'argent, du cash derrière. Vous nous dresserez le bilan de ce forum des PME à Dakar quand vous reviendrez le mois prochain. Merci beaucoup Didier Akouété d'être venu coacher nos jeunes qui ont des projets pour l'Afrique. Cette émission était préparée par Jonas Malé-Solar. C'est lui qui reçoit vos projets, les voisins et les voisines qui les sélectionnent et puis vous aide aussi à les présenter en quelques minutes pour que vous soyez convaincants. Vous nous envoyez dès maintenant tous vos projets par mail à 7milliards@rfi.fr pour la prochaine émission avec le coach Didier Akouété, ou bien vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Demain, 7 milliards de voisins, je reçois l'historienne Diane Ducret. Après le livre qui l'a rendue célèbre, Femme de dictateur, elle vient de publier une histoire du sexe des femmes à travers les siècles. Et c'est tantôt frissonnant d'horreur, tantôt très drôle. Rendez-vous à 10h10, temps universel, et en direct sur RFI.